Aujourd'hui, avec les Actes des Apôtres, nous avons un épisode assez savoureux, assez drôle du reste, des apôtres qui ont été mis en prison. Et donc on ne sait pas à cet endroit-là, il n'est pas dit de qui il s'agit, mais donc les apôtres sont mis en prison. Donc c'est une narration tout à fait normale. Et il se passe quelque chose pendant la nuit. Et pendant la nuit, il y a donc un ange qui surgit et qui leur parle, comme vous et moi, on peut se parler, se croiser, se voir. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que ils font exactement ce que l'ange leur dit. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas de frayeur. On peut repenser à Vierge Marie quand l'ange Gabriel vient la voir. Elle est toute la tadrl, dit l'araméen, n'aie pas peur. Marie-Madeleine, elle voit des anges, elles sont toutes effrayées, elles gardent les yeux par terre, nous dit un évangéliste. Donc là, on a quelque chose d'assez nouveau, et je trouve que c'est important de le relever, parce que cela montre, à mon avis, c'est un indice extrêmement fort, qui nous montre que les apôtres, avec la résurrection, sont passés, non pas dans un monde parallèle, mais sont devenus, je ne sais pas comment il faut dire ça, deviennent de plus en plus participants du monde invisible. Et qu'au fond, leur expérience de la résurrection les amène dans le monde invisible. À la fois, nous aurons Paul qui nous dira que nous combattons contre les dominations, etc. etc. Donc le monde invisible, ça peut être les bons anges comme les mauvais, hein. Là, en l'espèce, ce sont les bons. Voilà, donc le monde surnaturel devient le monde le monde surnaturel devient le mode de vie normal à partir de la résurrection. Ça peut déjà nous rejoindre nous-mêmes pour savoir si, suite à la Semaine Sainte, suite à la célébration de la résurrection, nous sommes retombés tel un soufflet. C'est exactement la bonne image, je trouve. Puis voilà, c'est fini. On a retrouvé nos activités d'avant, c'était une parenthèse. Le spectacle était bon, on a applaudi, et puis voilà quoi. On verra plus tard, mangeons du chocolat, enfin bref. Ou bien, est-ce que nous avons laissé quelque chose? Est-ce que nous avons été impactés? Alors, un indice, par exemple, qui, parmi tellement d'autres, plus importants, mais c'est des choses qui peuvent arriver parfois à des prêtres, les gens vous disent merci pour l'homélie, machin, et vous leur demandez ce qu'ils ont retenu, ils sont incapables de vous dire. Et au fond, on peut se demander si ils ont applaudi les paroles qui leur ont plu, mais... jusqu'où ça, est-ce que ça a été plus loin que l'oreille? On n'en est même pas sûr. Et au fond, vous voyez, ce qui importe, c'est ça, c'est que la parole ait atteint un endroit qui fait que vous ne pouvez plus faire demi-tour. Et c'est très exactement ce qui est arrivé aux apôtres. Ils ont fait une expérience de la résurrection qui est telle qu'ils ne peuvent plus faire demi-tour. C'est pas possible, quoi. On peut les emprisonner, on peut faire ce qu'on veut, ben non. Vous voyez, il y a deux jours, là, comme je le disais, donc lundi, ils se font ratatiner, et leur prière, c'est pas « protège-nous, on a peur », c'est « donne-nous d'aller encore annoncer la parole ». C'est assez bouleversant. Donc voilà, pour nous, ça peut être un petit examen pour nous dire, bon, au fond... au fond, j'en suis où, là? Est-ce que je vis dans le surnaturel, dorénavant? Est-ce que j'essaie? Est-ce que je m'y entraîne? Est-ce que je m'y habitue? Est-ce que j'en profite pour causer avec mon ange gardien? et avec celui des autres, ou est-ce que je suis retombé dans ces ornières dont je n'avais pas du tout prévu de sortir, du reste. Voilà, c'est un peu moralisant ce que je dis, hein, mais la morale, c'est la vie. C'est le mouvement. Est-ce que le Seigneur vous a rejoint ou est-ce qu'il ne vous rejoint pas? Est-ce que vous avez changé de vie ou est-ce que c'est pour plus tard? Et si c'est pour plus tard, plus tard n'arrivera peut-être jamais. Parce que vous serez mort dans une semaine. Voilà, bon. Donc, faut quand même réfléchir à ça. L'éternité, c'est important. Et donc, nous voyons cette vie surnaturelle qui est la lumière. Les anges de Dieu, les bons anges, vivent dans la lumière. Vous savez peut-être que... Évidemment, c'est une opinion théologique, hein, il n'y a pas de choses. Mais c'est intéressant, je trouve, de savoir comment les anges communiquent-ils entre eux. Bon, un grand théologien, saint Thomas d'Aquin, montre, je ne sais pas comment du reste, que les anges communiquent par la lumière. Ils se transmettent des informations par la lumière. C'est intéressant. On ne peut pas les vérifier. Mais ils ne se parlent pas par leur langage, c'est la lumière. Ils se transmettent des informations par la lumière. Je trouve ça intéressant parce que, précisément, dans l'Évangile, eh bien, il est question de lumière et de ténèbres. Et donc, nous reprenons le début de Jean 3, 16-21, en montrant que Jésus a été envoyé pour le salut des hommes et le jugement est énoncé. Et on sent dans cette énonciation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà le jugement. Donc au fond, le jugement, c'est chacun qui le porte. De cette phrase, on a le sentiment que ce n'est pas Dieu qui juge. Dieu, il constate que nous venons à la lumière en répondant à sa grâce, qui est toujours première, ou que nous ne venons pas à la lumière en refusant sa grâce. Et alors, il y a un passage, bon, j'en ai déjà dit quelques mots, peut-être même lundi du reste, je ne sais plus quand j'en ai parlé, qui est très intéressant. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc là, on a un rapprochement entre, évident, hein, d'après le texte, entre les ténèbres et les œuvres mauvaises. On entend, quand on fait le mal, on reste dans les ténèbres. Et on peut se demander pourquoi on reste dans les ténèbres. Eh bien, on a la réponse, de peur que les œuvres ne soient dénoncées. Donc ça, c'est assez clair, on comprend très bien. Et puis ensuite, on nous dit, celui qui fait la vérité. Et là, on est un peu surpris, parce qu'on se serait attendu à lire, celui qui fait le bien vient à la lumière, puisque celui qui fait le mal déteste la lumière. On aurait pensé l'inverse, vous voyez, celui qui fait le mal reste dans les ténèbres, celui qui fait le bien vient à la lumière. C'est assez cohérent, mais c'est juste pas ce qui est écrit. Il y a écrit « celui qui fait la vérité ». Et pourquoi vient-il à la lumière ? Celui qui a fait le mal, il ne veut pas venir à la lumière parce que ses œuvres vont être dénoncées. Et celui qui fait la vérité vient à la lumière pas pour recevoir une médaille. Pas parce que ses œuvres sont bonnes, c'est pas ce qui est écrit, mais pour montrer que ses œuvres sont accomplies en union avec Dieu. Alors vous allez me dire, une œuvre en union avec Dieu, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a reçu la grâce de Dieu passait son temps à faire des œuvres bonnes. Parce que si c'était le cas, il n'avait pas besoin de la grâce de Dieu. s'il faisait déjà des œuvres bonnes avant d'être uni à Dieu qui lui donne sa grâce. Vous voyez ce que je veux dire. Donc au fond, on pourrait penser que ce passage montre que faire la vérité, c'est reconnaître ce que nous sommes, c'est-à-dire des créatures pauvres, incapables de faire quelque chose de bien sans la grâce, incapables de durer sans l'intercession de Jésus devant son Père pour nous, sans la passion de Jésus qui nous a obtenu la guérison. Et au fond, cela manifeste cette incapacité donc de rien faire sans Dieu. Et donc le fait de venir à la lumière, eh bien, c'est reconnaître notre dépendance. Alors le terme français est assez péjoratif souvent, je n'ai pas encore réussi à trouver un terme qui soit notre besoin absolu de la grâce de Dieu. Oui. Alors que celui qui fait le mal rejette le besoin absolu de la grâce de Dieu. Il n'y croit pas, il n'en veut pas, il le nie. Ce qui fait qu'il pose des actes mauvais, à longueur de journée, du reste. Donc, voilà pourquoi donc, Dieu a envoyé son Fils. Pour que, ayant eu cette lucidité de reconnaître notre pauvreté, elle puisse être immédiatement reçue par Dieu et couverte, dissoute, détruite, comblée, enfin je ne sais pas comment il faut dire, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, par son nom. Autrement dit, je vais dire un truc peut-être un peu difficile à comprendre, mais... nos péchés ne sont pas très graves si nous les présentons à la lumière du Christ. Contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, ce n'est pas si facile que ça. Parce que quand on a fait l'expérience de sa nullité, de sa lâcheté, du fait que on a beau faire beaucoup de choses... on a l'impression de tomber dans le péché comme on attrape un microbe. Vous attrapez un microbe, vous ne savez pas pourquoi, vous mettez à tousser, vous êtes malade 3 jours. Et vous dites, pourtant, je n'ai pas fait exprès, enfin, je n'ai pas cherché. C'est arrivé comme ça, vous ne l'avez pas vu venir. Et dans les vies spirituelles, il peut arriver des choses similaires. C'est-à-dire qu'on est, on menait une vie droite, on essayait, enfin... de prier, de recourir à la parole de Dieu, à la prière personnelle, à aimer son prochain, à éviter de faire des trucs idiots. Et tout à coup, paf, vous êtes terrassé et vous dites, ce que j'ai fait... Alors, ça ne veut pas dire que ce que nous avons fait, nous l'ayons fait en dehors de Dieu. Mais ça veut dire que ça peut peut-être vouloir dire que notre besoin de Dieu est beaucoup plus criant que nous ne le croyons. Et que nous avons besoin les uns des autres pour nous soutenir. Et qu'au fond, on ne se sauve pas tout seul, entre guillemets, enfin l'expression est assez mauvaise, se sauver, faire son salut, non, c'est Jésus qui a fait notre salut, nous on le reçoit. Accueillir le salut de Dieu, c'est l'accueillir en permanence, et non pas passer dans cette espèce de croyance que à partir de maintenant, je ne commets plus de péché, c'est fini, je suis sauvé, je suis au ciel... Ouais, tu vas voir, t'es pas exactement au ciel, en fait. Il y a un combat qui est là. Ce combat dissout notre orgueil de penser qu'un jour, au fond, on arriverait en disant « Ouais, on a été trop fort grâce à Jésus. » Oui, enfin, on n'a jamais été trop fort, c'est Jésus qui est très fort. Donc, je pense qu'il y a la notion du temps qui vient là pour nous dire... n'aie pas peur de te laisser évangéliser, ça va pas si vite que ça. Il faut le temps que ça passe dans l'homme, Il n'y a pas d'aliments qui passent, enfin, il y en a rarement qui passent immédiatement dans le sang, il y a peut-être quelques-uns. En général, il faut que ce soit digéré, trié, dosé, etc. Si vous prenez trop de magnésium, l'organisme le met à la porte parce qu'il n'en a pas besoin. En revanche, si vous prenez trop d'autres choses, bah, ça reste, donc ça abîme le corps. Mais vous voyez, il y a tout ce temps, ce phénomène du temps qui peut être une vraie humiliation, hein, de ne pas avoir de résultats immédiats, voilà, et de durer. C'est peut-être un des messages que donnent finalement ces gens qui ont 90 ans, et, par exemple, et qui ont 70 ans de vie monastique, qui ont duré dans la prière, dans la confiance, qui se sont simplifiés. Ben voilà ce que je vous livre aujourd'hui.